ابن مصر وابن أزمة تنفلج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له فرج حتى يغشاه أبو السرج اشتدي أزمة تنفلج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له فرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجد وفوائد مولانا جمل لشروج الأنفس والمواج ولها أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج فلرب ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج فلرب ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج فلربما فضى المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نتجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجاج قامت بالأمر على الحجج عجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى مركوزتها فعج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى مركوزتها فعج وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج وإذا حاولت نهايتها فاحضر إذ ذاك من العرج لتكون من الصباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فبمبتهج وبمنتهج فهج الأعمال إذا ركضت وإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السامج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج الله 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 حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجيبا من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجيبا واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه سجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزج واشرب تسنيم مفجرها لممتزجا وبممتزج وهوى المتولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرغج وإذا أبصرت منار هدى.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, une émission qui vous vient une semaine sur deux, un samedi sur deux, sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir avec vous, Lamine à l'animation.
ثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وغياب
Et bien ce soir, on va essayer de vous réchauffer. Le froid s'est installé rapidement cette année au Québec et l'annonce des tempêtes de neige est devenue presque, on peut dire quotidienne, puisque un jour sur deux, on s'attend à avoir une tempête de neige ici au Québec au mois de décembre. On ne parle pas de mois de janvier ni de mois de février. Pour ce soir, nous allons parler d'un sujet chaud pour vous réchauffer. Bien sûr, on appellera votre participation à travers le téléphone, comme d'habitude, au 514-495-2597. Et ce soir, notre sujet, c'est cette problématique qui a été posée dernièrement par un dépôt de plainte de la part d'un responsable d'un site internet québécois qui a déposé plainte contre un imam qui a prononcé selon ce qui a été décrit dans la plainte des déclarations haineuses envers les homosexuels, envers les juifs, envers les femmes qui ne portent pas le voile et aussi envers d'autres groupes de personnes. La plainte qui a été déposée au niveau de la commission des droits de la personne canadienne a été rejetée et cette semaine on a vu sur la presse aussi au niveau du Devoir, c'est le Devoir, je pense, qui a commencé à travers un article. Il y a aussi plusieurs émissions de radio où cette problématique a été posée. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec la majorité ? Ici, on a le droit d'avoir une foi, peut-être qui deux fois pourra nous indiquer des choses qui peuvent être en contradiction avec des choses qui sont évidentes dans la société dans laquelle on vit. Comment on doit les exprimer ? Et bien sûr, on parle de la communauté musulmane, on parle des imams. Et est-ce qu'on a le droit d'avoir des déclarations haineuses envers des groupes ciblés au sein de notre société québécoise ? Pour répondre à cet ensemble donc de questions, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Cheikh Omar Kony, qui est assez connu puisqu'on l'a reçu à Taxi Maghreb plusieurs fois, on l'a reçu aussi à la Caravane du Maghreb et il a eu l'occasion aussi d'intervenir plusieurs fois au niveau des médias québécois. Cheikh Omar Kony, qui est aussi imam donc de la mosquée Iman, qui n'est pas très loin de Radio Centre-Ville, il va nous éclaircir sur l'ensemble des questions par rapport à la religion musulmane, par rapport à ce qui a été posé comme question cette semaine, mais aussi en tant que religieux dans cette société, mais aussi civil, puisqu'il a aussi des ses activités de tous les jours, comment il pourra réconcilier entre le respect mutuel qui doit exister dans la société québécoise et canadienne établie par des chartes, établie aussi par cette liberté d'expression, en même temps que les gens ont le droit de croire, cette liberté de conscience, mais en même temps dans un respect mutuel. Et tout cela va se dérouler sur les endroits du centre-ville à partir de maintenant jusqu'à, on peut dire, jusqu'à minuit. Et bien sûr, votre participation sera la bienvenue à partir de 11h15, puisqu'on va commencer le débat avec notre invité juste après cette première, on peut dire, pause musicale. Une chanson qu'on peut dédier à nos compatriotes qui fêtent Noël dans quelques jours.
سلام الله سلام الله سلام الله على ابن مريم روح الله عيسى روح الله
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, et comme on a déjà annoncé au début de l'émission, ce soir on va parler de, on peut appeler ça la problématique du discours des différentes religions qui existent au Québec dans un environnement et dans un climat de respect mutuel. Et notre invité ce soir, c'est Cheikh Omar Koné, imam de la mosquée El Iman. Cheikh Omar Koné, bienvenue à l'émission Taxi Maghreb.
Merci, bonsoir Lamine.
Donc, comme je l'avais bien mentionné en introduction, cette semaine, il y a eu un débat autour d'un certain discours qui a été, donc, qui est même présent encore sur Internet, d'un imam à Montréal, sans le citer, qui peut être problématique par rapport à une cohabitation possible entre les différentes religions, entre différentes personnes qui peuvent aussi être des personnes non croyantes dans une société où d'un côté la liberté de chacun est protégée par des chartes, et aussi la liberté de conscience est protégée dans les chartes. Cheikh Omar Koné, d'une façon globale, Est-ce qu'il y a un problème à ce que dans une même société, des différentes religions, des différents points de vue peuvent s'exprimer d'une façon respectueuse de part et d'autre ?
Je pense qu'aujourd'hui, on ne retrouvera plus ce problème à l'aube, durant ce nouveau siècle. Il y a la possibilité de pouvoir cohabiter. Nous ne sommes plus dans une autre ère où il y a eu beaucoup de confrontations, où il y a eu des systèmes de civilisation différents, parfois antagonistes. Et l'ouverture du monde, les flux migratoires et le fait que de nombreux immigrants sont venus au niveau de l'Occident et les systèmes établis permettent à tous et à toutes de cohabiter habituellement dans une harmonie, dans le respect mutuel, dans une générosité qui permet la tolérance du voisin. Et je ne trouve pas ni du plan de vue des règles des démocraties occidentales et de leurs principes, mais également des règles de bienséance au niveau de l'islam et du consensus des savants en général, je ne trouve pas de problème à cette cohabitation-là. Et la grande majorité des musulmans non plus ne verront pas ce genre de problème-là.
On peut dire que ce qui s'est passé cette semaine, bien sûr le problème s'est posé bien avant, puisque la plainte a été déposée bien avant. Mais par contre, le refus de la commission des droits de la personne au niveau canadien a suscité un débat, et on peut dire que la communauté musulmane est un petit peu perturbée. Premièrement, on remarque un silence, on peut dire, peut-être responsable ou irresponsable de la part de la communauté, mais là, j'ai parlé avec beaucoup de membres de la communauté, ils sont un petit peu perdus. D'un côté, ils savent très bien que oui, dans notre religion, il y a des choses qui sont autorisées et d'autres choses qui ne sont pas autorisées. Des choses qui ne sont pas autorisées, mais qui peuvent exister dans la société où est-ce qu'on vit. Comment réconcilier notre discours de façon à garder notre cohérence par rapport à notre foi, mais en même temps, ne pas tomber dans un discours haineux?
Je pense qu'au niveau des sociétés d'accueil pour notamment les populations immigrantes musulmanes, et mais également pour les musulmans qui sont ici, par exemple, les gens de foi en général, il est important de comprendre que d'abord, ce sont des sociétés que nous avons choisies, ce sont des sociétés qui ont certains systèmes qui sont laïques dans leur expression en général, qui laissent la place à tous et qui permettent également à tous et chacun, à travers donc notamment la Charte des droits et libertés, d'avoir des systèmes de valeurs, des systèmes de foi, parfois, leur foi respective, et de s'y épanouir, mais tant et aussi longtemps que le respect mutuel, la cohésion générale est toujours maintenue. Donc il n'y a pas de contradiction pour ceux et celles qui veulent vivre au Québec à avoir des discours différents, mais il est important dans le contrat social que nous avons en général au niveau des démocraties, mais également qui est imposé pour les musulmans, de garder le respect de tous. Donc avoir, oui, un système de valeurs qui est très fort au niveau de l'islam, nous avons bien entendu des préceptes, des interdits, nous avons également toute une réglementation par rapport à ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire et nous ne devons pas faire. Et nous pouvons nous y épanouir sans tout autant manquer de respect aux autres qui ne le suivent pas. Tous n'ont pas eu peut-être l'opportunité de connaître les principes de l'islam ou d'y adhérer, et nous devons quand même de garder cette courtoisie-là, parce que nous avons choisi ces pays. Les systèmes dans lesquels nous vivons ne sont pas musulmans. Et ces pays nous ont accueillis, nous ont permis d'avoir notre foi et de continuer à travailler, à vivre ici. Et nous allons trouver également, même dans l'exemple prophétique, à travers de nombreux messagers, de nombreux prophètes, mais également l'exemple du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, des exemples similaires où il a dû cohabiter avec des étrangers, des voisins qui n'étaient pas du même système de foi, et cela n'a jamais posé de problème en tant que tel, et cela a toujours été fait dans un grand respect.
un des arguments, donc même je pense que l'imam en question a réagi en envoyant un email à la presse où il disait que moi je ne fais que reprendre ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a comme consensus. Si on prend la question par exemple de l'homosexualité, comment un imam qui, sans trahir sa foi, sans trahir peut-être une position tout à fait peut-être évidente pour la majorité des musulmans, maintient un discours respectueux vis-à-vis des co-citoyens québécois qui peut-être ils ont choisi un mode de vie qui n'est pas en adéquation, comme vous l'avez mentionné, par rapport à cette question-là, comme on la voit en tant que communauté musulmane.
D'abord, il faut s'entendre que les systèmes de foi monothéistes, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, ont tous eu une position similaire sur, par exemple, l'homosexualité, où le croyant, dans ces trois systèmes de valeurs-là, est invité à ne pas y adhérer et est invité cela survient dans son environnement immédiat à essayer de s'en détourner au mieux. De nombreuses condamnations peut-être ont été données à différents moments, et nous avons l'histoire biblique et qui est reprise dans tous les ouvrages, autant dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que le Coran également, à propos de la ville de Sodome et Gomorre. Mais je pense également que nous pouvons, comme nous avons choisi de venir dans ce pays-là, garder nos systèmes de valeurs sans pour autant décrier ce que les autres font, car nous n'avons pas la fonction de prophète, où les prophètes parfois avaient l'obligation d'aller décrier, d'aller mentionner sur la place publique, et avaient une responsabilité en ce sens dans leur système devant Dieu. Le croyant en islam a des obligations, mais ces obligations-là doivent être d'un consensus généralisé, ne doivent pas non plus semer la discorde, ne doivent pas mettre en danger la communauté en général. Et ce sont des sujets aujourd'hui qui sont délicats, on s'entend dessus. La modération est également présente dans le Saint-Coran, parce que nous allons retrouver donc une invitation pour ceux et celles qui ont changé par exemple d'orientation à simplement retourner vers Dieu et à se repentir sans pour autant subir par exemple la condamnation de leur confrère ou de leur père. L'homosexualité est aujourd'hui dans un certain nombre de pays musulmans condamnée, mais ce n'est pas le cas dans la majeure partie des pays musulmans, je dirais. Et aujourd'hui, en Occident, le devoir de tous et de tout est de veiller au respect des choix mutuels de chacun. Nous pouvons ne pas être d'accord avec l'autre, ne pas emboîter son système de valeurs, mais garder quand même le respect qui nous est imposé par un ordre civil particulier.
Je pense, Jérôme Aconé, le problème qui est posé et que peut-être les gens, et je parle de nos concitoyens québécois, nos musulmans, ce qui les dérange, ce n'est pas que les gens soient en désaccord, puisqu'on sait très bien que même des hommes politiques qui même ils ont gagné des élections, et je fais référence au Parti conservateur, à même des positions qui ne sont pas tout à fait alignées avec la question du mariage, au moins de la reconnaissance du mariage donc homosexuel ou le mariage de même sexe. Le problème, je pense que les gens ne soient pas d'accord avec ça, je pense pas qu'il soit un problème, parce que ça fait partie de la liberté d'expression et d'opinion. Mais est-ce que je pense que le problème il se pose plus au niveau de développer un discours haineux, d'insultes, d'inigrément et même de mépris envers des personnes qui ont choisi peut-être quelque chose qui ne correspond pas à nos choix.
Ce discours haineux, malheureusement, est très présent aujourd'hui au niveau de certaines tendances en islam. Il faut se rappeler que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a jamais eu de discours haineux, a toujours eu un discours respectueux, même si les versets qui descendaient étaient parfois durs. Leur interprétation ne nous est pas toujours propre. Nous avons ce problème de l'interprétation aujourd'hui avec un certain nombre d'écoles qui sont des interprétations littéralistes. Donc je prends le Coran, je le lis, j'interprète de la façon dont je veux. Pourtant, il y a une exégèse du Coran, il y a des sciences de cela. Nous ne pouvons aller à l'encontre de ce qu'a fait le prophète ou l'encontre du consensus général des savants et de la tradition prophétique, que la paix soit sur lui. En ce sens, le discours haineux aujourd'hui ne peut pas être accepté parce qu'il n'est pas accepté au niveau de l'islam. L'islam a toujours, si l'on cite l'exemple de celui qui a passé plusieurs centaines d'années à aller vers les peuples mécréants de son temps, qui était le prophète Noé, il l'a toujours fait dans le respect de leurs valeurs, même s'ils étaient dans le respect de leur dignité, même s'ils étaient très durs envers lui. Et tous les prophètes et messagers ont toujours été très patients, très tolérants lorsqu'ils allaient inviter les gens vers la vérité et ne le faisaient pas dans un discours haineux. Aujourd'hui, nous connaissons cette tension au niveau international entre cette islamophobie galopante. Donc il est important de ne pas faire le jeu justement de ce discours-là et d'être un peu plus raisonné. Les musulmans ont manifesté très fort par rapport au respect de leurs prophètes lorsque nous avons eu les caricatures, ce qui était bien de manifester, mais de manifester quand même de façon mesurée. Pourquoi ? Parce que c'était leur identité qui était touchée. Mais le discours haineux, en ce sens, n'aurait pas été acceptable, n'aurait même pas été à l'image du prophète que nous voulions défendre, que la paix soit sur lui. Et en ce sens, également, le discours haineux n'est ni islamique, mais ni toléré par l'ensemble des sociétés aujourd'hui qui sont sur la terre.
Pour revenir à un point que vous avez soulevé, et là on parle bien sûr de l'école salafiste ou wahhabiste, sur l'interprétation littéraliste, et là ça me rappelle un débat qui a eu lieu entre une des références de cette école-là, qui était donc aveugle, donc qui argumentait sur le fait que le Coran ne peut avoir qu'une interprétation littéraliste, qu'il n'y a pas de sens figuré, et la réponse de la personne qui justifie l'autre point de vue lui a dit que sur cette base-là, vous serez aveugle dans l'autre vie, puisque le Coran dit que celui qui est aveugle dans cette vie-là, il sera aussi dans l'autre vie. Comment cette école-là pourra faire du tort d'une façon globale à l'islam, mais surtout à l'intégration de la communauté musulmane dans les sociétés occidentales aujourd'hui ?
Je pense que le discours littéraliste est parfois dangereux. Vous pouvez prendre n'importe quel texte et vous pouvez l'interpréter de la façon dont vous voulez. Ainsi, par exemple, pour citer les tristement célèbres membres du Ku Klux Klan, ont justifié souvent leurs actes en mentionnant la Bible. Beaucoup de mouvements fascistes contemporains, ou peut-être des grandes guerres, ont été faits au nom des textes sacrés. Or, nous savons qu'au cœur des textes sacrés, il y a toujours la mention de la paix, la mention de la valeur de la vie. Donc l'interprétation littérale en tant que telle que nous avons dans ces écoles aujourd'hui peut être dangereuse, car au niveau de l'islam, nous savons qu'il y a des écoles d'interprétation, il y a au niveau de l'exégèse du Coran, il y a toute une science de cette compréhension-là, il y a une compréhension immédiate, il y a une compréhension éclairée par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui lui-même, il y a des versets qui sont abrogés par d'autres versets, il y a des versets qui s'orientent vers les dirigeants, vers les souverain et non pas vers le commun des mortels, parce que le Coran adresse toutes les sphères de la société, le croyant. Donc, traditionnellement, l'exégèse était toujours faite à la lumière du compagnonnage de savants qui nous éclairait sur la sagesse qu'il y avait dans ces versets-là. Mais l'interprétation littérale, dans un texte qui est révélé par la présence divine, par Dieu Tout-Puissant, qui parfois est à interprétation multiple, on dit que les océans qui viennent avec le Coran sont quasiment infinis dans leur interprétation, peut être dangereuse pour des gens qui se l'approprient de façon déraisonnée. Et nous avons eu beaucoup d'exemples au cours du XXe siècle pour cela. Beaucoup de gens justifient les actes terroristes qu'ils font aujourd'hui en se basant sur des versets qui incitent les gens à combattre le mal, mais ils oublient de la même main de regarder les versets qui attirent l'humain au respect de la vie, qui attirent vers le suivi de l'exemple prophétique qui a toujours été une miséricorde absolu, qui a toujours défendu les faibles, qui n'a jamais combattu un innocent, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc cette école peut poser problème, et pas simplement pour l'intégration des musulmans aujourd'hui, mais pose problème dans le monde musulman. L'islam, qui a toujours été une religion de paix, une religion qui a inspiré, qui a invité, qui a redonné l'espoir, qui a fait s'illuminer des continents entiers, aujourd'hui est source de crainte, de peur au niveau de la Terre. Je pense qu'il y a un problème que nous ne cernons pas de façon importante aujourd'hui, à ce niveau-là, parce que certaines écoles, oui, ont été littéralistes et ont nourri donc certains mouvements qui ont voulu avoir une interprétation stricte, une interprétation littéraliste. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible. Il y a une sagesse dans l'interprétation du Coran. Cela a toujours été enseigné par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et il faut se référer aux savants traditionnels pour cela.
Merci beaucoup, cher Omar Kone. Je rappelle que mon invité ce soir, c'est cher Omar Kone, qui est imam de la mosquée Iman. On parle de cette problématique qui a été posée suite à un dépôt de plainte d'un responsable d'un site internet contre un imam qui, à travers ses écrits, à travers aussi un livre qu'il a publié, il, bien sûr, on parle selon la plainte, puisque l'imam en question a dit que ces textes ont été pris hors contexte, mais si, selon la plainte, développe un discours haineux vers des personnes ou vers des groupes qui peut-être ne partagent pas la même foi ou la même croyance que l'imam en question. On va prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir avec notre invité. Je vous rappelle bien, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et ce soir, on est le 20 décembre et demain dimanche, on annonce une grande tempête de neige.
Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. Réservez maintenant et ne payez que 2 semaines avant votre départ. Aucun frais caché, 0% d'intérêt. Dépôt minimum requis, certaines restrictions s'appliquent. Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. 514-847-1287, 847-1287.
Merci, je suis arrivée. Combien je vous dois?
Ça fera 5 000 $, s'il vous plaît.
Quoi? Mais ça n'a aucun bon sens.
En fait, c'est 11 $ 75, mais j'ai besoin d'un coup de pouce pour payer mon permis de taxi et changer mon véhicule.
Mon cher monsieur, pour des conditions de financement avantageuses, il vous suffit de communiquer avec FinTaxi.
FinTaxi?
Eh oui, FinTaxi est le spécialiste en financement pour l'industrie du taxi au Québec. Tous les services sont offerts sous un même toit et les délais d'acceptation sont de 24 heures ou moins.
Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757, 353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca.
Hey, taxi!
Ça vous dirait de faire un bon coup? Commerçants, gens d'affaires, professionnels, ce message s'adresse à vous. Rejoignez les communautés représentant un marché naturel pour vous ou développez de nouveaux marchés tout en appuyant une radio impliquée socialement, indépendante et à but non lucratif. Soyez impliqués vous aussi et faites-vous connaître davantage. C'est une bonne idée, non? Je m'appelle Daniel et j'aimerais vous renseigner sur notre façon de faire et nos tout petits tarifs. Rejoignez-moi à publicité@radiocentreville.com ou au 514-495-8836. 495-8836.
Donc, bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Comme ça a été déjà depuis presque une demi-heure, ce soir on parle de cette problématique qui a été posée dans une déclaration d'un imam où il y a eu une dépôt de plainte qui a été refusée, bien sûr, par la commission des droits de la personne. Et pour nous éclaircir sur le discours que doit avoir le musulman dans une société, d'une façon générale, dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle, nous avons le plaisir de recevoir à Taxi Maghreb monsieur, Cheikh Omar Kone, qui est imam de la mosquée Al-Iman. Cheikh Omar, une question qui passe par l'esprit de beaucoup de Québécois aujourd'hui à travers un certain discours haineux qu'on peut retrouver. Il faut mentionner aussi qu'il y a un contexte islamophobe aussi qui, des fois, amplifie des situations qui restent minoritaires et marginales, mais on ne peut pas nier leur existence et on ne peut pas aussi nier, des fois, le silence de la communauté musulmane à se dissocier de certains discours haineux ou plus ou moins, au moins marginal, si c'est pas intégriste. Mais une des questions donc, qui se pose dans la société québécoise aujourd'hui, est-ce que pour être musulman, je dois être contre les autres? Est-ce que pour être musulman, je dois haïr ceux qui ne sont pas musulmans? Est-ce que pour être un bon musulman, je dois haïr tous ceux qui ne partagent pas ma foi, tous ceux qui, peut-être même qui partagent ma foi, mais qui ne respectent pas toutes les règles que l'islam, bien sûr les règles générales, où il y a un consensus, est-ce que être musulman, je dois passer ma journée, je dois me concentrer à vouloir prendre comme ennemi tous ceux qui sont pas, qui partagent pas avec moi la même foi.
C'est assez fondamentaliste et intégriste comme position. Haïr est une caractéristique de Satan et non pas une caractéristique du croyant. Le croyant, à l'image du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est miséricordieux, il est invitant. Quel meilleur exemple que l'exemple du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lui-même, qui a, à son pire ennemi, jusqu'au dernier moment, qui l'a invité simplement à embrasser la foi, qui a pardonné tous ceux et celles qui lui ont fait mal, qui a visité son voisin qui lui jetait des ordures tous les jours devant la porte, qui a prié pour tous ceux et celles qui l'ont martyrisé, qui ont martyrisé sa famille, qui a dit qu'il intercéderait le jour du jugement dernier pour ceux et celles qui ont transgressé de façon majeure les commandements de Dieu, et qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Le problème est que nous sommes aujourd'hui, dans cette interprétation-là, détachés de l'exemple prophétique, détachés de ce qui fait l'esprit de l'islam. Ce comportement-là, je pense, traduit plutôt une certaine étroitesse d'esprit, car nous savons que l'islam est une religion qui n'impose nulle obligation. Les gens y sont invités, bien entendu. L'islam a ses principes, mais nous ne pouvons forcer les autres à être comme nous sommes. Nous avons eu le privilège, car qui est véritablement celui qui ouvre ou ferme les cœurs, comme il le dit, Mukallib al-Kuloub wal-Absar, il est le tourneur des cœurs. Nous ne pouvons pas prétendre avoir la vérité absolue, car le croyant peut se tromper, le musulman peut se tromper. La finalité incombe à Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes. Nous ne pouvons pas être juges. Donc en termes de l'exemple prophétique, nous nous devons donc d'avoir un peu plus de largesse, de prier pour les gens, mais pas tout simplement de passer notre journée à les critiquer. Nous sommes venus ici en tant que musulmans, et l'islam est une tradition excessivement riche. C'est un système de valeurs qui apporte tellement à l'humanité, mais en tant que musulmans, qu'avons-nous fait les uns les autres pour partager notre système de foi? Est-ce que nous avons suivi l'exemple prophétique qui a parlé le langage des gens, qui est venu vers eux, qui les a écoutés, qui les a reçus tels qu'ils étaient, dans une largesse totale? Il les a reçus même en état d'ébriété, parfois il les a reçus alors qu'ils venaient avec des choses difficiles à faire, difficiles à dire, et tranquillement il leur a montré la lumière de l'islam. Est-ce que nous le faisons, ou simplement nous nous capitonnons dans des positions en disant moi j'ai l'islam, j'ai la vérité, je suis meilleur que l'autre, et nous pensons véritablement que ça, ceci est l'exemple à suivre? Suivons-nous vraiment l'exemple du prophète lui-même, que la paix soit sur lui? Nous ne pouvons pas être arrogants. Nous savons que ces caractéristiques-là, l'arrogance est une caractéristique du shaitan, la colère également. Donc tout ce qui est haineux traduit cet esprit-là de rébellion. Et la rébellion, à l'envers de la sagesse, a mené Satan à être expulsé de la présence divine et à être expulsé des chemins du bien. Donc nous devons quand même avoir un peu plus de sagesse, suivre l'exemple prophétique, et en tant que musulman, je pense.
Un élément que vous avez mentionné au début, mais je voudrais quand même que je revienne sur cette question, c'est surtout au niveau, bien sûr, des personnes qui prennent la parole dans les lieux publics en tant qu'imam en premier lieu, mais en tant que représentant de l'islam, donc on peut dire tous les responsables des mosquées et tout ça. Si on se base sur la tradition prophétique, comment faire l'équilibre entre l'affirmation de l'identité parce que l'idée ce n'est pas juste de plaire aux autres pour plaire, il faudra, s'il y a un élément qui nous différencie en termes de conviction, je pense que c'est important que, et même l'intégrité intellectuelle, et je pense que nos concitoyens non musulmans demandent de nous qu'on soit honnête, c'est pas de dire, de développer un double discours en fin de compte, c'est de développer un discours sincère, donc il faut être sincère dans nos convictions, mais en même temps garder cet équilibre de respect mutuel. Mais je voudrais que vous nous parlez un petit peu d'exemple, parce que l'argument aussi qui est présenté par ceux qui développent ce discours-là, qui est considéré comme un discours théorique et aussi un discours de fierté, disent que les autres, en fin de compte, font des concessions pour plaire à ceux qui ne sont pas musulmans.
Mais nous nous devons de faire des concessions. Bien entendu, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a fait des concessions avec ses voisins, avec les gens qui n'étaient pas de son système de foi. L'islam enseigne à faire des concessions. Pourquoi récitons-nous le Coran à voix basse la journée? Un simple exemple. C'est par respect pour les autres. Lorsque cette demande a été demandée par l'archange Gabriel, Allah, le Seigneur des mondes, disait par respect pour les autres, parce qu'ils vont être mentionnés à travers des histoires de leurs prophètes, et pour ne pas qu'ils se sentent mal par rapport aux erreurs qui ont été commises par ces nations-là, gardez la voix basse la journée, parce que durant la journée, vous êtes en compagnie de ces gens-là. Dieu invite les gens à respecter les autres traditions, à dire qu'ils sont également croyants, peut-être n'ont pas suivi, mais ils sont croyants. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a pas été invité à combattre le chrétien, à combattre le juif. Non, il a gardé avec eux de nombreuses relations, il a gardé le respect, il a parlé avec eux, il a signé des alliances avec eux, il a développé un pacte social avec eux. La terre d'islam a toujours vécu en harmonie entre les différentes traditions, entre les différentes communautés. Cela est important. Donc je pense aujourd'hui, plus important que jamais, au moment où les barrières frontalières sont tombées, les systèmes s'interpénètrent et que nous vivons dans une terre d'accueil comme cela, il faut perpétuer ces valeurs telles qu'enseignées au niveau de la religion, parce qu'elles sont enseignées. On ne peut pas toujours se baser et par fierté de son système de valeurs, toujours regarder les autres de façon un peu hautaine et critiquer les autres. Dieu a invité à ne pas juger même le pharaon, parce que il disait à l'intérieur de chacun d'entre vous réside un pharaon, et si l'on vous avait donné le potentiel du pharaon, vous auriez été tous pires. Donc je trouve aujourd'hui que c'est important de mentionner cela. Au niveau mondial, il y a toute une problématique liée à cet échange-là. Le double discours n'est pas fait pour faire plaisir, il est simplement fait dans l'esprit de l'islam. L'islam a toujours enseigné la cohabitation avec les autres, une cohabitation harmonieuse, passive, tant et aussi longtemps que l'intégrité de l'islam est respectée et que il n'y a pas de danger pour les musulmans à vivre ou à pratiquer leur foi. Aujourd'hui, on se rappelle que nous ne sommes pas en terre d'islam lorsque nous sommes aujourd'hui ici. Nous avons également, selon les principes de l'islam, un contrat social. Donc, quoi de plus honorable pour un musulman, simplement que de recevoir l'autre avec largesse, avec charité, de l'inviter. Vous êtes d'une société, vous êtes du Maghreb. Allez dans les villes traditionnelles, dans la Médine, dans la Casbah, et regardez comment les trois religions ont cohabité pendant des siècles en harmonie et s'invitaient mutuellement, même s'ils ne partageaient pas les mêmes valeurs, les mêmes systèmes. Donc, c'est l'esprit de l'islam, cet esprit de respect. Et c'est tel qu'enseigné par le Coran, tel qu'enseigné par la tradition prophétique, et je ne vois pas comment un musulman aujourd'hui qui prétend suivre ce système de foi-là peut se soustraire à cela et traiter les autres qui ne sont pas stricts de double discours.
Cher Omar Kone, aujourd'hui on peut dire que la communauté musulmane vit deux phénomènes et des personnes qui essayent de garder le juste milieu qui est même proposé par la tradition prophétique se retrouvent entre deux au fond, entre des éléments du même étau, un étau qui sert des deux côtés. Donc un discours islamophobe de plus en plus présent, maintenu par une certaine élite de nos sociétés occidentales, et aussi un discours, on peut dire, haineux, qui fait l'affaire du discours islamophobe puisque il développe, il présente un islam rétrograde, un islam qui correspond pas à cette ouverture que vous avez mentionnée. Quelle est la responsabilité de la communauté musulmane d'une façon générale vis-à-vis de cette situation-là?
La communauté musulmane doit être forte sur ses positions. Et ce doit être, à mon sens, des positions du juste milieu, comme vous les avez mentionnées. Nous ne transigeons pas sur les principes de nos valeurs, sur les principes de la foi, sur ce qu'il y a de sacré. Nous vivons selon notre système de foi, dans le respect du système en place, parce que la démocratie occidentale aujourd'hui n'empêche pas le musulman de pratiquer sa religion. Mais nous devons de garder le milieu, de ne pas faire le jeu d'aucun extrême. L'islam est la voie du centre, la voie du milieu, la voie de la tolérance, mais également de la fermeté par rapport à notre système de valeurs, à nos croyances, à nos pratiques, aux limites que nous nous donnons. Devons donc de donner cet exemple-là, d'abord, parce que nous allons voir que les musulmans ne donnent pas toujours cet exemple-là, autant dans leur participation civile, dans l'organisation, dans leur honnêteté, parfois, mais également dans la façon dont ils sont capables de partager leurs idées. C'est parfois conflictuel, et cela n'est pas toujours nécessaire. Donc, nous devons nous unir, parce qu'il y a beaucoup de dissensions au niveau des différentes communautés musulmanes, et nous devons décrier, lorsque cela est le cas, ceux qui n'appartiennent pas à l'islam, les actes qui sont faits et qui ne sont pas de l'islam. Malheureusement, c'est une communauté qui n'a pas ce réflexe-là, qui est ce réflexe de se lever, de dire non, ce n'est pas l'islam. Nous n'avons pas ce réflexe-là, parce que les communautés musulmanes sont assez passives en général, même si une certaine élite parmi eux sont beaucoup plus actives, mais ils ne regardent pas toujours de façon très, très très active le discours quotidien. Donc les musulmans doivent avoir leur position, doivent participer, doivent défendre leur point de vue, doivent également s'exprimer avec les moyens qui sont donnés aujourd'hui. Les moyens qui sont donnés dans le pays où nous sommes sont la parole, mais la parole dans le respect, la parole dans des tables de concertation, la parole éclairée, la parole du juste milieu également, qui définit notre position, mais qui invite également les autres au partage, sans pour autant parler de laxisme.
Merci, cher Omar Kone. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on parle du discours de l'islam, un discours qui est des fois contesté, surtout au niveau des médias québécois, par rapport à certaines déclarations qui sont considérées comme étant des fois contre les valeurs des sociétés occidentales d'aujourd'hui. Bien sûr, à partir de maintenant, on pourra recevoir vos appels au 514-495-2597. On va prendre une petite pause musicale et on va revenir avec notre invité juste après la chanson de Dahmal Harrachi.
ماشي واحد ولا تنين واحد تقول شي بوقاتو الاخر تقول شي سكين الاخر سم في شوكاتو
مازلنا حنا حيين وانتو ما قلتو ماتو هالدارين غير لي يجي يحكي بحياته واحد خارج من الدين الاخر بدل صفاته والدنيا يا سمعين كل واحد واش عطاته واحد حاير مسكين الاخر فرح زاده صورة ياسين تقول شي طلبة اللي فاتو والدنيا يا سمعين كل واحد واش عطاتو واحد حير مسكين الاخر فرح زاتو الاولين اللي يسمع كلمه وبكاتو يفهم روحو في الحين هذا كيمه ولداتو والدنيا يا سمعين كل واحد واش عطاتو واحد حير مسكين الاخر فرح زاتو.
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on parle d'un sujet qu'on a considéré comme chaud, vu que le froid s'est installé au Québec, on peut dire hâtivement cette année. On a eu déjà, je pense, trois tempêtes en moins, au moins deux et demi, jusqu'à maintenant la troisième s'annonce pour demain. Et nous avons le plaisir de recevoir donc cher Omar Malconi, qui est imam de la mosquée Iman, pour nous éclairer sur le discours du musulman d'une façon globale, mais surtout dans une société multiconfessionnelle et multiculturel, un discours que ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, qui affirme l'identité, mais en même temps qui respecte les personnes qui peuvent ne pas partager nos points de vue, qui peuvent ne pas partager notre mode de vie. Bien sûr, comme je l'ai mentionné, nous commençons à prendre les appels au 514-495-2597 et je prendrai le premier appel avec Belkacem. Belkacem, bonsoir.
Bonsoir Lamine, bonsoir votre invité, oui, Cheikh Omar.
Oui.
Je voudrais participer à l'émission pour. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec l'imam.
Avec Tata.
Salut.
Salut.
Oui. Excusez la mine.
Je sais que tu es en pleine action.
Oui, donc je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est pas le moment des discours haineux, comme vous l'avez dit. Et on voit, pour si on parle du sujet qui a évoqué cet imam sur la place publique, si c'était dans sa mosquée, il est libre de s'adresser au ma'mounin, puisque c'est un imam, au ma'mounin comme il le veut, mais sur la place publique, c'est pas le moment d'avoir ces discours-là haineux. Mais on parle, si on parle au nom de la démocratie, on voit aux États-Unis où il y a des États qui ont accordé le mariage homosexuel ou avec un référendum, ils l'ont rejeté. Il y a plusieurs religions qui rejettent ça, comme le Vatican et tout. Donc, vraiment, même dans l'Occident, c'est pas clair. Mais entre...
Où vous allez, monsieur? On s'en va sur de Maisonneuve.
Je pense que la ligne s'est coupée, Belkacem. On a eu déjà une bonne partie de ton point de vue. Je reviens à Chiron Marconi. Vous voyez, je pense à travers, je prendrai l'exemple de Belkacem à travers son intervention. On voit que on est un petit peu perturbé en tant que communauté. On ne sait pas exactement. Je prends le cas du mariage homosexuel. C'est comme si on n'est pas très bien éclairé sur un élément fondamental. La différence entre affirmer notre point de vue et là, c'est tout à fait normal que aujourd'hui le discours de l'islam sur la question de l'homosexualité, c'est qu'il n'est pas en accord. Et vous l'avez mentionné que aussi d'autres tradition religieuse, donc chrétienne, catholique, et le Vatican a une position claire sur ça, et aussi donc au niveau de la religion juive. Mais entre eux, développer un discours de mépris envers des personnes qui ont choisi ce mode de vie-là. Je pense que ça serait intéressant d'éclaircir un petit peu comment on peut garder un équilibre entre les deux positions sans tomber sur une acceptation ou une volonté de changer nos choses, parce qu'un double discours, ce n'est pas changer des choses qui sont affirmées dans notre voix, parce que ce serait pas tout à fait sincère, mais en même temps, sans tomber dans un discours, comme je l'avais mentionné tout à l'heure dans l'émission, de vouloir haïr tous ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ont choisi un mode de vie différent de ce qu'on considère comme le mode de vie idéal.
Je pense que peut-être au niveau de l'homosexualité, ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'en général, il y a bien des concepts, des principes dans les démocraties occidentales dans lesquelles nous vivons, et aussi beaucoup dans les pays musulmans, qui ne sont pas en accord avec les textes de l'islam, qui ne sont pas en accord avec les principes, que ce soit en matière économique, en matière maritale, en matière de différentes orientations. Et le musulman doit faire face à l'adversité selon ses valeurs, son système de foi. Mais nous rappelons qu'en islam, il n'y a nulle obligation, la ikra fi din, comme il est dit, nous ne pouvons pas forcer les autres à notre valeur. Nous nous devons de respecter dans une certaine mesure les autres tant qu'ils ne touchent pas et ne portent pas atteinte à notre intégrité. Donc en ce sens-là, je pense également que le musulman n'a pas à craindre de perdre son système de valeurs, son système de foi, parce qu'il a autour de lui des choses qui ne sont pas en accord avec sa valeur. Aujourd'hui, ici, les relations entre hommes et femmes commencent bien avant l'âge mature, et pourtant, ce sont des choses qui sont décriées dans toutes les traditions. Et les musulmans doivent vivre avec ça, mais pas simplement les musulmans. Les chrétiens qui croient à un certain niveau à cette union sacrée qui doit être célébrée devant Dieu, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et nous ne pouvons pas simplement, parce que les gens n'ont pas choisi notre système ou n'ont pas été éclairés sur un certain nombre de valeurs que nous avons, nous, avoir un discours haineux. Nous pouvons nous dissocier, bien entendu, affirmer notre point de vue au niveau individuel. On n'est pas obligé de le crier sur la place publique. Si ça peut créer de la discorde, de la dissension, nous devons parler le langage des gens. C'est un principe très important en islam que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons. Parler le langage n'est pas simplement de comprendre la langue des gens, mais de parler selon leur système en général. Et ce système est un système qui permet à tous de s'exprimer dans un respect mutuel, sans pour autant décrier ce que les autres font.
Je prendrai un autre appel. Je pense que Belkacem est de retour. Allô, oui, Belkacem ? Non, Allô, M. Khadraoui ?
Bonsoir, l'ami.
Oui, bonsoir, M. Khadraoui. Vous êtes sur les ondes.
Bonsoir. Et merci pour cette belle initiative d'inviter un gentleman, un homme aussi raffiné, aussi évolué spirituellement que Cheikh Omar.
Merci à vous.
Non, sincèrement. Donc, les gens modérés, c'est toujours, ça fait toujours plaisir.
Monsieur Khadraoui, si c'est possible, Monsieur Khadraoui, juste de vous éloigner de la radio un petit peu.
Je vais la réduire.
Ouais.
Allô ?
Oui, vous êtes sur les ondes.
Allô ?
Oui, vous êtes sur les ondes, Monsieur Khadraoui.
Merci. Et donc, ça fait plaisir et on apprend énormément de choses quand on a affaire à ce qu'on appelle vraiment les professionnels.
Le plaisir est grandement partagé.
Sérieusement, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque où les gens modérés ne peuvent pas parler parce que l'information est contrôlée par des multinationales, elle est contrôlée par les puissances économiques, elle est contrôlée par les puissances de propagande, etc. Et en gros, ça fait que les gens modérés deviennent comme des extraterrestres s'ils n'ont jamais l'occasion de s'exprimer.
En effet.
Donc, vous, cher Monsieur Lamine, vous avez fait un geste de noblesse d'inviter Cheikh Omar.
Merci.
Et avant que j'oublie quelque chose, allô ?
Oui, oui.
Lamine, avant que j'oublie quelque chose, assurez-vous que Cheikh Omar fasse une belle prière dans la station de radio parce qu'il y a des fois, la plupart du temps, il y a des énergies négatives. Donc avant que Cheikh Omar quitte, demandez-lui de faire une belle prière dans la station.
Alhamdoulilah, vous priez pour nous, Hadraoui.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Donc je voudrais juste ne pas prendre l'antenne trop longtemps, juste pour vous dire que Allah ybarak fikum, et vous faites un excellent travail, et que les gens qui s'expriment en tant que connaisseurs réellement, en tant que spécialistes, en tant que... Ce sont des gens modérés, ce sont des gens de bonne volonté, ce sont des gens réellement évolués spirituellement. Et on n'a pas le temps de les entendre parce que les médias sont contrôlés par les multinationales, par les banques, par les vendeurs d'armes, etc. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Lamine, pour ce geste noble et raffiné. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Monsieur Khadraoui. Donc, je vais prendre Belkacem qui mais avant de revenir avec Belkacem, je prendrai une petite pause publicitaire et on va revenir avec notre invité qui est Cheikh Omar Kone, imam de la mosquée l'imam qui est venu nous parler ce soir de cette problématique qui est considérée aujourd'hui comme problématique entre la possibilité que nous offrent les chartes occidentales et canadiennes et québécoises en particulier d'avoir cette liberté de conscience, d'exprimer notre foi, mais en même temps dans un cadre multiconfessionnel et aussi dans un cadre multiculturel où le respect mutuel est aussi fait partie de ces chartes-là. Donc restez avec nous, on va revenir après la pause publicitaire.
Jet Set, les spécialistes du Maghreb. Réservez maintenant et ne payez que 2 semaines avant votre départ. Aucun frais caché, 0% d'intérêt. Dépôt minimum requis, certaines restrictions s'appliquent. Voyage Jet Set, les spécialistes du Maghreb. 514-847-1287, 847-1287.
Merci, je suis arrivée. Combien je vous dois?
Ça fera 5 000 $, s'il vous plaît.
Quoi? Mais ça n'a aucun bon sens.
En fait, c'est 11 175, mais j'ai besoin d'un coup de pouce pour payer mon permis de taxi et changer mon véhicule.
Mon cher monsieur, pour des conditions de financement avantageuses, il vous suffit de communiquer avec FinTaxi.
FinTaxi?
Eh oui, FinTaxi est le spécialiste en financement pour l'industrie du taxi au Québec. Tous les services sont offerts sous un même toit et les délais d'acceptation sont de 24 heures ou moins.
Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757, 353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca.
Hey, taxi!
Ça vous dirait de faire un bon coup? Commerçants, gens d'affaires, professionnels, ce message s'adresse à vous. Rejoignez les communautés représentant un marché naturel pour vous ou développez de nouveaux marchés tout en appuyant une radio impliquée socialement, indépendante et à but non lucratif. Soyez impliqués vous aussi et faites-vous connaître davantage. C'est une bonne idée, non? Je m'appelle Daniel et j'aimerais vous renseigner sur notre façon de faire et nos tout petits tarifs. Rejoignez-moi à publicité@radiocentreville.com ou au 514-495-8836. 495-8836.
Donc retour à l'émission Taxi Maghreb avec notre invité qui est Jérôme Akoné. Je vais prendre deux appels, je pense, Belkacem et Nabil. Belkacem, bonsoir.
Oui, rebonsoir, je m'excuse. Donc je vais continuer ce que j'ai dit. Pour moi, j'ai entendu l'imam en question dans la radio. Donc ses propos, moi, je les ai pas aimés parce que je sais pas s'il parlait à son nom ou au nom des musulmans. Et le grave, c'est qu'il a parlé en place publique sur la femme. L'islam, toujours, il n'a jamais traité la femme ou l'homme, l'homme au second de la femme ou la femme au second de l'homme. Dans l'islam, c'est clair. Dans le Coran, c'est clair. Donc la femme, elle est indiquée comme l'homme dans l'islam. Donc sur la parité, l'homme et femme, donc dans l'islam, normalement, le problème, il n'existe pas. Pour les religions, pour s'attaquer à une religion ou à une communauté religieuse, là, Ikrah Hafiddin, il a dit l'imam, ou même Hattaouda Kent Kassawa, la Koumdin ou Koumwaliadini, le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vraiment, ces propos, ils étaient démesurés, et moi, en tant que musulman, je rejette ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, s'il s'adressait dans sa mosquée pour s'attaquer à la femme et tout, c'est pas juste. Et pour, il a dit, je suis tout à fait d'accord avec notre imam Omar, nous on n'est pas là à juger les gens ou à critiquer les gens, même entre nous. Omar ibn Abdelaziz, il a dit, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, Cheikh Omar, qui est présent avec vous dans les studios. Donc, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Même entre nous, on n'a pas à juger les gens. Ou le Hidayah, c'est pas Rasoul Maqdar Shihdi Ammo Abi Talib. Donc, c'est à Dieu de. Si on revient au nom de la liberté d'expression, comme les autres ont dit, les gens qui ont fait la caricature, ils ont dit que c'est au nom de la démocratie et de la liberté d'expression. Là, c'est autre chose. Mais la liberté d'expression, mais pas dans les moments, parce que cet imam, il veut, je sais pas, renoncer à un deuxième accommodement raisonnable.
Merci beaucoup.
Donc, je vous remercie. Avant de terminer, j'ai une dédicace spéciale, l'ami, si tu permets, à notre ami Rabah qui vient du retour au pays après son mariage. Inch'Allah.
Merci,
au revoir.
Merci Belkacem. Notre appel, Nabil, bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum.
Wa alaikum salam Nabil.
Allo.
Tfadl Nabil, tfadl.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Salam alaikum Cheikh Omar. Moi, rapidement, là, je voulais enchaîner la même voix que M. Khadraoui. Je salue la clairvoyance de Cheikh Omar Kony. Ça fait vraiment un grand plaisir. Depuis longtemps, à chaque fois, j'écoute ses interventions avec beaucoup d'intérêt. Je trouve un homme comme lui modéré, avec beaucoup de sagesse. Il faut qu'il représente de plus en plus la communauté, parce que c'est vrai, des fois, on entend de gauche à droite des gens, peut-être qui ne sont pas vraiment des connaisseurs sur l'islam, ils apprennent peut-être deux versets, ils deviennent des imams ou quelque chose. C'est vraiment grave, quelque chose de grave. Pour ce qui concerne l'affaire de l'imam, je pense que si l'hostilité envers les musulmans c'était toujours comme ça, si c'était un rabbin qui a fait une déclaration pareille, elle n'aura pas le même impact médiatique. Ça c'est sûr et certain. C'est pas question de parce qu'on est faible les musulmans, c'est parce qu'on est mal représenté. Pourquoi ce monsieur imam il fait une déclaration sur le public comme ça, la radio, je sais pas, pour attiser encore la haine envers nous. Moi, je suis un chauffeur de taxi, les gens me parlent régulièrement concernant l'islam, concernant les guerres, concernant toutes sortes des affaires qui ont un lien avec l'islam. Tu sais, je te jure, il me faut un psychologue à côté de moi parce que je deviens fou, là. À chaque fois, là, il faut que je me réponde, là, que je trouve des réponses. De toute manière, Cheikh Omar Kony, c'est quoi la mosquée? C'est l'Amana, Cheikh
l'Amana. L'Imane, elle est sur... oui.
Je vous entends mal, l'ami, non, pas fort.
Oui, donc l'adresse exacte...
Al-Imane, sur la rue Fermont, 138 Fermont.
C'est quoi l'adresse?
138 Fairmont Ouest.
Fairmont, ok, c'est Myland.
C'est ça, dans le Myland.
Pas très loin de la radio.
C'est Myland, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok, bon, d'accord. Ben, et... salam alaikum.
Alaykoum salam.
Bon, continuez sur le mien.
Merci beaucoup à tous.
Visitez de temps en temps comme ça chez Omar Kony pendant les occasions.
Alhamdulillah. Barakallahu fikoum.
Salam alaikum.
Merci Nabil. Chez Omar Kony, on voit que le témoignage de Nabil en tant que taxieur qui rencontre des personnes de différentes origines, de différentes tendances chaque jour. On sent que la communauté vit un malaise, il y a un manque de support, il y a un manque peut-être de clairvoyance, d'orientation, d'un discours tout à fait clair, d'un discours, comme on l'a dit, qui affirme l'identité, qui ne va pas se cacher, mais il affirme l'identité dans le cadre d'un respect des autres identités ou des entre-fois. D'après vous, et je reviens à la question que j'ai posée au début, il y a peut-être 20 minutes, sur cette problématique de l'existence de ce discours ou de certains imams qui développent un discours qui met plus, qui crée plus de problèmes, de malaise, même au sein de la communauté, que devait vraiment apporter un imam comme plutôt une clairvoyance ou une orientation positive. Quelle serait la responsabilité de la communauté aujourd'hui? Parce que tout le monde dénonce ça. Mais en même temps, c'est des mosquées qui sont financées par les mêmes musulmans. Tout le monde dénonçait le Jazeri. Bien sûr, on ne parle pas de sa déportation qui pouvait être inhumaine, mais on parle surtout par rapport au discours qu'il a développé. Tout le monde le dénonçait, mais en même temps, Jazeri s'est installé dans la communauté. Il a pu construire une mosquée à partir des dons de la communauté. Est-ce que vous ne pensez pas que on a nous-mêmes un problème à être clair par rapport à des positions pareilles qui nous font du tort, mais en même temps qui sont supportés soit par notre silence ou des fois par notre complicité directe?
Je pense d'abord que le problème fondamental réside pour les musulmans par rapport à leur connaissance de la religion. Les musulmans ont hérité une foi qui leur vient de leurs parents, en général aujourd'hui. Je parle des musulmans de naissance. Et souvent, donc, nous sommes musulmans par affiliation, mais nous avons très peu de connaissances des principes directeurs, des principes doctrinaux, des lois. Mais nous avons très peu de connaissances également historiques des différentes écoles d'interprétation. Quelle est leur histoire? Pourquoi le monde aujourd'hui est comme ça? Pourquoi nous avons telle et telle école d'interprétation et de pensée? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi aujourd'hui certaines écoles ont complètement disparu, remplacées par des écoles littéralistes dans certaines régions comme l'Algérie, d'où vous venez, et que les gens n'ont pas souvenir qu'il y a simplement 100 ans, c'était un système d'islam complètement différent, des écoles complètement différentes, et on a l'impression que ce que nous avons aujourd'hui est l'islam véritable. Et nous oublions que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « La meilleure des générations est la sienne, puis celle qui va suivre, celle des tabi'ines, et celle des tabou tabi'ines, de ceux qui vont suivre. Et la qualité des croyants va se dégrader jusqu'à la fin des temps où ce sera la jahiliya, la deuxième jahiliya, et l'ignorance, la deuxième ignorance. Aujourd'hui, le musulman souvent est méconnaissant de son système de valeurs, des commandements, des principes, de l'histoire, des écoles de pensée, des écoles d'interprétation. Donc il ne peut toujours trouver la bonne compréhension donc par rapport au texte. Donc pour ce faire, il faut d'abord que les musulmans apprennent à propos de leur foi, à propos de leur système. Mais aussi faut-il qu'il y ait en ce sens, des écoles présentes, des écoles d'interprétation qui sont traditionnelles et qui sont des écoles du milieu. On parlait du discours haineux, qui est une stratégie utilisée, une stratégie dogmatique, qui est souvent utilisée avec bonne intention pour essayer de faire éviter aux gens d'aller vers quelque chose qui est interdit. On s'entend là-dessus, l'intention peut-être est bonne. Mais la manifestation... Aujourd'hui, c'est une pratique qui ne peut pas être acceptable parce qu'elle a des dommages collatéraux absolument effroyables et elle ne correspond pas à l'esprit de l'islam en tant que tel. Il est beaucoup plus important d'appeler les gens à travers l'amour, à travers le respect, à travers la tradition prophétique. Les musulmans donc doivent s'enraciner un peu plus dans leur tradition, mais aller regarder, replonger dans leurs racines de ce qu'a été l'islam de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, parce qu'aujourd'hui on veut nous berner en nous faisant croire que l'islam que nous avons aujourd'hui est l'islam en tant que tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Comment ça se fait que cet islam a fait plus de 100 000 morts dans votre pays? Et ce sont des musulmans qui tuent des musulmans. Au nom de quoi? Alors que la vie d'un seul humain est sacrée. Il y a une problématique. Mais il y a une problématique également dans la représentativité. Parce que les musulmans délèguent souvent la représentativité. Traditionnellement, selon les principes de l'islam, l'individu ne peut aller sur la place publique donner sa pensée ou donner son opinion. Il doit être réservé là-dessus. Il doit plutôt se référer à une personne d'autorité, une personne de sagesse, qui est traditionnellement sans les imams. C'est eux qui ont le droit de parler en public, de parler au nom d'eux. Donc les musulmans suivent cela. Or, nous sommes dans des systèmes aujourd'hui où cela ne marche pas très bien. Parce que c'est les systèmes démocratiques demandent à chacun de s'exprimer. Donc, les musulmans doivent tout à la fois respecter les principes de l'islam qui poussent à se mettre derrière une autorité, mais également doivent comprendre que le monde dans lequel nous vivons demande une intervention individuelle. Et les gens doivent intervenir de façon individuelle, de façon raisonnée, pour avoir, selon une bonne compréhension, une compréhension du milieu, pour également adresser ces questions. Nous devons mûrir également nos institutions. Vous êtes d'une immigration récente, Lamine, comme moi, et vous savez que la communauté musulmane à Montréal est assez jeune, encore peu organisée. L'élite qui est arrivée ici est occupée à mettre du pain sur la table. La deuxième génération qui va venir est tout jeune, mais on voit par exemple qu'en milieu universitaire, cela commence à se dessiner tranquillement. Les gens sont en train de prendre les devants, des associations sont en train d'être montées, mais également des tables de pensée, des tables de concertation. Cela va venir tranquillement. Mais pour cela, il faut que tout le monde mette un petit peu la main à la pâte et que nous comprenions qu'il en va de notre avenir à tous dans ce pays en tant que communauté musulmane et qu'il faut que les positions affichées publiquement soient toujours mesurées, modérées, qu'elles ne posent pas atteinte à la majorité.
Vous avez parlé de la question du discours haineux qui peut avoir une bonne intention pour pouvoir distinguer le bien du mal. On essaie de délimiter le bien qui est défini. C'est tout à fait naturel. Ça, je pense qu'il faut être clair sur ça. Tout le monde a un bien qu'il considère comme étant un bien, qui se positionne par rapport à un autre environnement donc l'environnement du mal. Mais, et là, je pose une question qui m'a été posée aussi dans un média. Mais comment pouvons-nous arriver à une situation où quelqu'un qui, porteur d'une foi, d'une vérité, dont il est convaincu que c'est une vérité, développe un discours haineux au lieu de développer un discours de compassion envers d'autres personnes qui, eux, par rapport à lui, n'ont pas touché cette lumière? C'est un petit peu paradoxal.
Je pense parce qu'il y a une discontinuité par rapport à l'essence fondamentale de la religion. Chaque religion, chaque révélation à travers les 124 000 prophètes, depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi salam, que la paix soit sur lui, chaque prophète, chaque messager est arrivé avec un message qui comportait toujours deux volets, la loi et l'esprit. Les textes, les commandements, les règles de vie, les us, les coutumes qui gèrent la pratique, donc ce qu'on appelle la loi, tout ce qui est de la pratique physique, de l'organisation sociale, mais l'esprit. L'esprit qui est cette lumière, qui est cette foi intérieure, qui est cet élan qui pousse l'humain à s'améliorer, à quelque chose de meilleur, à s'élever vers la présence divine, à suivre l'exemple prophétique. Nous avons gardé la loi, mais nous sommes tranquillement en train de perdre l'esprit, de perdre ce qui a fait la lumière fondamentale de l'islam, cette lumière de tolérance, cette lumière d'amour, cette lumière qui a éclairé les siècles, cette lumière que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a installée dans le cœur de ses compagnons par la volonté d'Allah. Comme disaient les compagnons, il nous a d'abord enseigné le iman, la foi, puis il nous a enseigné les principes de l'islam, donc les lois. Or, aujourd'hui, nous prétendons avoir les lois sans cet éclairage intérieur, sans cette foi profonde. Et cela donne toujours des principes secs, des principes dépourvus de sagesse, des principes dépourvus de cet esprit. Nous avons perdu la connexion avec l'esprit, qui est l'esprit mohammedien. Dans quel esprit est arrivé cet islam? Pourquoi Allah Azzawajal l'a appelé miséricorde pour l'humanité? Le titre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé Al-Habib, pourquoi il a été appelé ainsi? Quel est ce fil conducteur depuis lui, à travers les grands savants, à travers les âges, qui a fait rayonner cet islam, qui a fait que l'islam était toujours un vecteur d'organisation, de richesse, de vie, de pensée, de foisonnement, de richesse culturelle et artistique absolument époustouflante, voyager dans le monde musulman? Cet esprit vivant, nous nous en sommes coupés tranquillement. Parce que nous nous sommes coupés de celui qui est l'esprit de la religion, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Aujourd'hui, les musulmans ne relationnent plus avec lui de façon personnelle. Nous ne le voyons pas comme celui qui nous a laissé son héritage, celui auquel nous devons nous adresser tous les jours, parce que c'est son héritage que nous avons. Mais son esprit est encore présent. Et c'est lui qui est le gouverneur de cette nation jusqu'aujourd'hui, même s'il n'est pas présent physiquement, au moins spirituellement. Si nous avons la pensée que Shaitan peut être suivre 1 milliard d'individus en même temps et même plus, être à 1000 endroits en même temps, nous ne pensons pas que le prophète a cette réalité qu'Allah Azzawajal lui a accordée. Il témoigne, il est hadir wa nadir, il est présent en tout temps, il est l'intercesseur, il est celui qui dit « Je suis vivant dans ma tombe, les anges m'envoient la salutation du prophète des gens et je la retourne ». Je pense que nous avons brisé ce lien. Et ayant brisé le lien vivant, nous tombons, comme des nations qui ont précédé l'islam, dans des lois dont nous ne comprenons plus la subtilité, la sagesse et l'esprit. Et l'esprit, d'abord, est un esprit de servitude, de compassion, d'amour, avant d'être un esprit de loi. On ne s'élève pas vers Allah Azzawajal sous la contrainte et sous la peur, mais on s'élève d'abord par l'amour. Et c'est parce que, de façon structurelle, l'humain a été créé, et le vecteur premier qui l'attire vers la présence divine sera toujours l'amour.
Merci, cher Omar Kony. Il nous reste 9 minutes. Je voudrais aborder un sujet qui a une relation avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est la question de l'éducation des enfants par rapport à cette problématique donc d'affirmation de l'identité, de l'affirmation de la foi, mais en même temps du respect de l'environnement multiconfessionnel, multi-religieux, multiculturel dans lequel ils vivent. Et je pense que nos enfants sont plus exposés que nous parce que eux, je dirais, ils n'ont pas émigré, ils sont nés ici et aussi par rapport à eux, ils ont intégré le système éducatif dans lequel on inculque ces valeurs universelles qui sont présentées comme étant des valeurs universelles de respect qui se définissent par la charte. Donc comment le musulman doit garder cette cohérence dans son discours d'éducation vis-à-vis des enfants?
C'est quelque chose qui est très délicat, très difficile, Lamine, comme vous le soulignez, car aujourd'hui en Occident, un musulman qui veut élever ses enfants doit faire face à un raz-de-marée qui n'est pas musulman. Tout le monde autour, toutes les influences, tous les exemples, toute la médiatisation qu'il y a à propos d'un certain modèle pour les enfants n'a rien d'islamique, n'a rien de ancré dans ce système de valeurs-là. Donc c'est très délicat, c'est très difficile. Je pense que la fermeture dans des communautés restreintes n'est pas la solution, mais d'abord nous devons éduquer nos enfants en prêchant par l'exemple. Donc en montrant que nous sommes bien ancrés dans nos systèmes de foi, dans nos valeurs, que nous avons un respect pour la communauté dans laquelle nous sommes, mais en créant également tout un univers intérieur à nos foyers, à nos maisons, au sein de la communauté, pour balancer un petit peu ce qui nous entoure. Et c'est ce qui est déficient chez les musulmans aujourd'hui parfois. Nous nous attendons à avoir des comportements chez nos enfants, mais nous ne leur enseignons pas ce qu'a été l'exemple des prophètes. Combien de parents s'asseyent et lisent la vie du bien-aimé prophète? Combien de parents s'asseyent et de façon naturelle pratiquent un islam en compagnie de leurs enfants, en les invitant par un geste d'accompagnement, un geste d'amour, plutôt qu'un geste de contrainte? Nous devons prêcher pour les enfants par l'exemple. Nous devons leur offrir un cadre également au niveau des familles, au niveau de la communauté, où il y a ce système de valeurs, où il y a ce système... Vous rentrez aujourd'hui dans une famille musulmane, souvent, lorsque nous finissons le repas, la chose centrale qui va être au sein du foyer va être la télévision. Et nous oublions ce qu'a été le mode de nos parents, où avant d'être dans le divertissement, il y avait une forme éducative également. Combien de parents lisent avec leurs enfants, accompagnent les enfants, regardent et prêchent par l'exemple? Donc c'est très important. Parce que c'est la prochaine génération, c'est une génération qui est très importante, mais c'est une génération qui est également en conflit de valeurs parfois. Et si nous, d'abord, nous ne sommes pas bien ancrés dans nos valeurs, nous n'avons pas bien défini nos positions, et nous sommes dans une certaine incertitude, ou parfois nous sommes dans un radicalisme, il est certain que les enfants ne pourront pas suivre, et il va y avoir un conflit à un moment donné. Et c'est ce que nous voyons, c'est une problématique que nous voyons dans certains milieux un peu dur, un peu intégriste, les enfants à un moment donné quittent le milieu familial parce qu'ils ne sont pas heureux avec ce discours-là. Or, la prêche par l'exemple, l'exemple de tolérance, de respect, mais avec une bonne définition de nos valeurs et une mise en commun de nos acquis, les communautés devraient organiser un peu plus entre elles, ce que nous ne faisons pas assez, inviter les voisins. Un parent musulman respectueux des voisins qui s'assure que son voisin a à manger, même s'il n'est pas musulman, qui respecte les gens qu'il va rencontrer dans la rue, au lieu d'avoir parfois des paroles de dédain, des paroles de mépris, prêchera toujours par cet exemple vers les enfants. Et les enfants apprendront à vivre et à s'harmoniser avec la société autour, en équilibre, sans pour autant bâtir un discours haineux ou un discours dur ou un discours ségrégationniste ou un discours suprémaciste que l'on peut retrouver.
Merci, cher Amakoni. On arrive presque à la fin de notre émission. Je vous donnerai la parole pour une conclusion de ce sujet qui reste un sujet d'actualité dans lequel, je pense, la première responsabilité revient à la communauté musulmane à prendre des positions fermes contre une islamophobie de plus en plus présente, mais en même temps de s'assurer d'une autocritique interne de façon à ce que notre discours soit crédible quand on parle des attaques qui sont adressées d'une façon subjective envers la communauté. Pour pouvoir rejeter ces attaques subjectives, il faudra qu'on développe un discours objectif d'autocritique interne. Donc un mot sur cette responsabilité, surtout d'un point de vue religieux, en se référant à la tradition prophétique, sur la responsabilité de faire l'autocritique interne.
Je pense que cela est très important, comme vous le soulignez. Au niveau de cette autocritique, j'aurais aimé entendre cet imam, entre autres, critiquer les gouvernements des pays où il a appris l'islam et de critiquer ce qui se passe parmi les musulmans, ce qui se passe comme comportement. Il y a beaucoup d'autocritiques à faire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous migrons vers les démocraties occidentales parce qu'il fait mieux vivre, nous parlons de plus de potentiel, de plus de liberté, et que le monde musulman croule sous certains systèmes corrompus, certains systèmes de favoritisme systémique, certains systèmes d'injustice et d'inégalité où vous ne pouvez pas exprimer votre point de vue? Nous devons faire cette autocritique, nous devons regarder. Surtout lorsque nous nous éloignons du juste milieu, nous nous éloignons des éléments de noblesse auxquels nous avons été invités à travers le Saint-Coran. Et cela est plus important aujourd'hui, où le monde entier est intéressé à la question de l'islam et regarde cette question de l'islam. Si nous avions été de bons exemples, je vous garantis qu'avec l'attention médiatique qui est donnée à l'islam aujourd'hui, beaucoup plus de gens seraient intéressés. Et regardez tout simplement aujourd'hui au niveau du Québec, pour ceux qui prêchent par l'exemple, pour qui prêchent par l'islam, les gens qui les entourent regardent toujours l'islam avec beaucoup de respect et sont toujours étonnés et très curieux et arrivent et se reconnaissent même dans cet islam-là. Donc, cette autocritique est importante, comme vous l'avez souligné, afin également de définir notre position, de définir notre voie, de ne pas tomber dans un discours littéraliste qui parfois fait fi de ce qui se passe chez nous-mêmes. Très important. Ce qui est plus important pour le croyant, c'est lui, c'est le jour où il va arriver devant son Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli. Pas comment il a regardé les autres à toujours les critiquer. C'est lui qui va être jugé. Donc nous devons nous regarder à ce propos-là et nous dire, si nous devons arriver devant Allah Azzawajal un jour, il faut également avoir fait notre part.
Remarquons-le. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci aussi pour votre présence, pour nos amis de la communauté haïtienne. Soyez patients. Tant vous battant, on va arriver dans quelques instants. Cher Remarquons-le, merci une autre fois et à très bientôt.
Mille merci à vous, Lamine, et salam alaikum à tous nos auditeurs. Je vous remercie encore pour cette invitation.
Merci beaucoup. Donc, c'était Cher Remarquons-le qui nous a éclairé sur cette problématique de développer un discours cohérent avec les valeurs de la société dans laquelle on vit, un discours qui affirme notre identité, mais en même temps qui ne développe pas un discours, donc qui ne développe pas un visage haineux de notre foi. Merci à Monsieur Cachéran Marconnet, merci à nos chers auditeurs qui ont participé avec nous, à ceux qui sont restés avec nous à nous écouter donc depuis 10h30 jusqu'à minuit. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines et pour ceux qui attendent avec impatience la neige, on annonce donc demain matin 5 cm, dimanche après midi 15 cm, dimanche soir de 2 à 4 cm, et pour ceux qui ne sont pas satisfaits, il faut attendre encore mardi, on risque d'avoir aussi 5 cm. Donc, on le comprend à l'akhir, et on vous laisse avec cette chanson de Rubi.